en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Éric Orsenna, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française il y a déjà plus de 10 ans, en juin 1999. Éric Orsenna, qui, après « La grammaire est une chanson douce »,« Les chevaliers du subjonctif » et « La révolte des accents », a publié chez Stock en 2009 le quatrième volume de sa série à très grand succès sur la langue française, quatrième volume intitulé « Et si on dansait ?». Je rappelle le principe de notre série « L'essentiel », 7 questions récurrentes posées à tous les invités et concernant leur itinéraire, leur milieu d'activité, leur regard sur le monde, leurs échecs et leurs motivations. Éric Orsenna, bonjour.
Bonjour.
Tout de suite, la première question donc de cette série. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Le moment essentiel, j'ai 30 ans. C'est donc en 1977. Et je viens de publier mon deuxième roman, qui s'appelle « La vie comme à Lausanne ». Et je croise aux éditions du Seuil une dame que je ne connaissais pas, dont on me dit qu'elle s'appelle Geneviève Dorman, et qui m'accueille de façon bougonne en disant « Ah oui, ah, il paraît que vous avez fait publier quelque chose, etc. »
Qu'est-ce que c'est ? Elle était comme ça avec tout le monde.
Hein. Il paraît. Et le lendemain, elle m'appelle, me présente ses excuses en disant qu'elle ne m'avait pas lu quand elle m'avait rencontré. Elle m'avait lu dans la nuit. Et elle me dit, mais non, mais ce que vous venez de faire là, c'est formidable. Est-ce que vous acceptez que je vous soutienne au prix Roger Nimier ? Alors, comme j'avais beaucoup d'admiration pour Roger Nimier, je lui ai dit, c'est pas possible. Et puis, quelques semaines après, j'ai le prix Roger Nimier. Et je rencontre ce jury incroyable, où il y avait Dominique Rollin, où il y avait Geneviève Dorman, où il y avait Jean d'Ormesson, où il y avait Antoine Blondin, où il y avait Félicien Marceau, où il y avait Jean Namur, cet homme délicieux de RTL, etc., etc. Et Paul Guimard. Et brutalement, je suis admis comme un jeune père, mais comme un des pères par tous ces gens-là. Et donc pour moi, c'est un moment tout à fait merveilleux parce que depuis l'âge de 7-8 ans, je me disais que la vie ne serait possible pour moi que si j'étais écrivain, parce que je la trouvais dans une enfance désagréable, malheureuse, tiraillée, assez humiliée. Donc je me disais que la seule solution, c'était d'écrire. Et donc mon bonheur a commencé donc à l'âge de 30 ans, dans cette fameuse et merveilleuse année 1977. Et depuis, tout a été aussi facile que ça avait été difficile avant. C'est-à-dire tout s'est enchaîné. Après, il y a eu la thèse, j'avais soutenu, mais je rentre à Paris 1. Ensuite, je deviens maître de conférence à l'École normale. Ensuite, je rencontrais juste avant Jacques Attali, etc. Et puis 81. Et puis, toute la vie s'enchaîne. Et au fond, la vie s'enchaîne sur quoi ? Sur un moment de bonheur. Et je crois très, très, très profondément que le bonheur est bon pour la santé et bon pour la biographie. C'est-à-dire les gens qui cultivent le malheur, alors le malheur vous arrive bien assez tranquillement sans qu'on s'en occupe, donc cultivons le bonheur avant que le malheur ne vous rattrape.
Donc à ce moment-là, vous vous dites « je vais devenir écrivain ».
Non, pas du tout. Non, le plan de devenir écrivain, c'était dès l'âge de 7-8 ans. Je peux y croire. Mais là, c'était, je l'aurais été de toute façon, puisque c'était quand même mon 15e ou 16e roman. C'est-à-dire, j'en avais pas montré 12, j'ai montré le 13e et le 14e. Donc c'était, oui, le 15e roman. Je ne pouvais pas ne pas commencer une journée sans avoir écrit. Ce n'est pas possible.
Mais alors pourquoi ensuite la tentation des palais nationaux ? Parce que 81, vous êtes auprès de Jean-Pierre Cotte, ministre de la Coopération. En 83, auprès de François Mitterrand, donc président de la République. Et quelques années plus tard, auprès de Roland Dumas. Alors, cette tentation-là,
Non, ce n'est pas du tout une tentation. Là aussi, moi, je suis un être de temps. C'est-à-dire, je ne suis pas rapide. C'est-à-dire, j'aime la lenteur et j'essaye de me faire du temps un allié. Donc, ma première révélation, c'est avant 10 ans. Avant l'âge de 10 ans, je me dis que je serai écrivain. Et puis, très vite, il se trouve que mon premier souvenir adulte, c'est l'année 1962, c'est-à-dire même avant le putsch 61-62, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. Et je me passionne pour l'évolution de ces pays. Et je me dis que ça serait bien de comprendre ce qui va se passer et d'accompagner, ou en tout cas de savoir un peu ce qui va en être de ces nouvelles indépendances. Et je me rends compte qu'ainsi, il faut que je connaisse de l'économie. Donc je décide de faire l'économie pour deux raisons. D'abord, parce que je sais bien qu'on ne peut pas vivre en étant écrivain. On ne peut pas gagner sa vie en étant écrivain, donc il faut un deuxième métier. Et le deuxième métier va permettre et de gagner sa vie et d'être enseigné sur le monde. Et donc très vite, puisque j'ai 17 ans et je suis en Hippocagne, et donc je rejoins un petit parti qui était très intelligent et très non populaire, pas impopulaire, mais qui s'appelait le Parti Socialiste Unifié, où il y avait Alain Savary, où il y avait Michel Rocard, où il y avait des tas de gens comme ça de cette grande qualité. Donc je suis militant socialiste jusqu'en 80, donc ce n'est pas du tout la tentation des palais nationaux, c'est l'alternance rendu possible grâce à François Mitterrand, qui me demande en 80, une fois qu'il a eu triomphé, ce que je souhaitais exercer comme responsabilité. J'ai dit l'économie du développement, qui était mon métier depuis 15 ans. Donc, ce n'est pas du tout, tiens, je passe là-dedans, je suis banquier ou je travaille chez L'Oréal et je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi pas un peu de palais national. Donc, je récuse absolument votre mot de tentation. J'ai ni tentation de Venise, ni tentation des palais. J'allais faire mon métier dans des endroits dans lesquels on pouvait exercer une certaine influence.
Avec quelques surprises un peu désagréables, non ? L'Élysée, ça n'a pas été terrible comme expérience.
Oui, enfin, d'abord, le travail pendant presque deux ans avec Jean-Pierre Cotte était tout à fait passionnant, puisque on pensait qu'on pouvait changer les relations entre la France et l'Afrique, on pensait qu'on pouvait un peu aider les pays du Sud à se développer.
Toute la question des matières premières en particulier.
La question des matières premières, mais malheureusement c'était la période très très fermée, puisque c'était le moment où il y avait les deux grandes puissances, étaient dirigées par Reagan et par Thatcher, donc c'était probablement à l'ouverture. Mais je découvre un peu ce que c'est, que les cabinets, comment est-ce qu'on prépare les conseils des ministres, comment on négocie internationalement, donc c'était très très passionnant pour quelqu'un qui à l'époque avait 34 ans. Donc, mais avec quand même je suis économiste, moi mon métier c'est économie, j'ai été longtemps économiste, je suis de nouveau économiste. Donc là, et puis l'Élysée, je découvre un personnage absolument formidable et qui manque beaucoup aujourd'hui, qui est François Mitterrand, qui était compliqué, qui était difficile, qui était assez cassant, qui était un patron qui rendait la vie pas très très simple, mais en même temps, quelle grandeur de vue, quelle manière d'exercer ce magistère, enfin, de président, quelle culture, quel sens du temps, c'est-à-dire quel sens des hiérarchies, donc toute chose, toute qualité qui nous manque grandement aujourd'hui.
Mais est-il exact que vous êtes borné à l'aider dans ce que vous appelez ces discours subalternes, ce que l'on voit sur votre biographie officielle ?
Oui, non,
Oui,
c'est réducteur parce que j'étais conseiller culturel.
Oui.
Donc tous les domaines de la culture étaient importants parce que c'était le tout début des grands travaux, mais c'était le début de l'organisation des sommets francophones, c'était le changement de la loi sur les droits d'auteur, c'était le tout début de ce qui allait devenir Arte. Avant, il y avait eu la 7. Donc il y avait des tas de domaines dans la culture qui me passionnaient. C'était la formation aux disciplines artistiques à l'école, c'était la loi sur le prix du livre, le prix unique du livre, parce qu'il y avait des gens qui pensaient que le livre était une marchandise comme n'importe quelle autre et donc on pouvait faire jouer la concurrence, c'est-à-dire que en fonction de la grandeur des librairies, les unes pouvaient jouer cette concurrence et d'autres non. Si on n'avait pas défendu bec et ombre avec Jacques Lang, je me suis impliqué directement à la fois en France et en Europe sur ces questions-là, on aurait détruit notre réseau de libraires. C'est-à-dire que quand on détruit la distribution, en général, on réduit la production.
Donc 78, prix Nimier, point de départ de plein de choses. 88, le prix Goncourt. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fondamentalement changé ? S'il a changé quelque chose ?
Alors le prix Goncourt a changé beaucoup.
L'exposition coloniale.
L'exposition coloniale. Donc d'abord, j'avais l'idée depuis longtemps, c'est-à-dire 7-8 ans à l'avance. Vous voyez, toujours le temps, toujours les projets à très très long terme. Ce qui fascine et peut agacer, notamment dans ma famille, parce que je fais des projets toujours à 7-8 ans. Et donc, je me disais, je vais faire un gros roman. Je vais faire un roman très ambitieux. Donc, je vais raconter une sorte de hold-up botanique, puisque c'est les Anglais qui piquent de la graine de l'EVA sauvage et qui la font un peu, l'améliorer un petit peu dans le jardin botanique de Kew, au sud de Londres, et puis après, qui vont la planter en Asie du Sud-Est. Et c'est comme ça que, au fond, l'Amazonie est privée de cette ressource énorme et que des tas de villes vont faire naufrage. Et donc, je voulais raconter ça. Donc, j'ai mis 7 ans pour raconter ça. tous les jours, même quand j'étais à l'Élysée, même quand j'étais auprès de Jean-Pierre Cotte.
6h à 8h du matin,
tous
c'est
les
ça
jours, Tous les jours. Et quand j'arrive après 7 ans de travail, j'envoie le manuscrit à mon éditeur, qui est toujours mon éditeur, qui était à l'époque chez Au Seuil, et qui m'appelle 2 jours après, et il me dit, bah, écoute, bonne et mauvaise nouvelle, c'est la même. Alors je lui dis, bah, commence. Et bah, il me dit, bon, c'est, écoute, oui, tu peux faire mieux. Donc, bah, je passe un week-end épouvante, parce que quand même, 7 ans de travail. Et le lundi, je dis, bah, écoute, je recommence. Et là, pendant 6 mois, j'ai fait à peu près que ça. J'ai pratiquement pas dormi, j'ai dormi sans arrêt. Enfin, j'ai travaillé sans arrêt. Et j'ai refait tout. Alors, ce livre a eu le Goncourt. Et alors, le Goncourt, au fond, a été une étape absolument décisive pour moi de la monter vers ce que je préfère, c'est-à-dire la liberté. Parce que le prix Nimier me permettait de dire à tout le monde que j'étais écrivain. Donc, ensuite, avoir ce statut auprès de l'administration me permettait de dire « j'ai envie d'être comme je suis ».
Oui, parce qu'en plus, il y avait eu le Conseil d'État en 85.
En plus, le Conseil d'État, en plus l'Élysée, etc. Mm-hmm. Et le Goncourt me permettait de dire aux membres du jury que je les aimais bien. Parce que quand vous dites à un écrivain que vous respectez, par exemple Michel Tournier, qui est membre du jury du Goncourt, que vous aimez ses œuvres, ça veut dire que vous êtes un lèche-cul. Une fois que vous avez eu le prix, bah vous pouvez lui dire. Comprenez ? Et donc, je me souviens, juste avant le Goncourt, il y avait cette rencontre formidable du livre sur la place à Nancy. Et alors, il y avait les 2/3 des membres du jury. Donc, ils me regardaient, comme ils regardaient tous les autres écrivains. Donc, évidemment, comme j'étais un des favoris, on interprète, comme dans les rapports amoureux, quand on est jaloux et dit « Ah, elle m'a souri, ça veut dire qu'elle veut me faire oublier qu'elle a un amant. Elle ne m'a pas souri, ça veut dire qu'elle ne m'aime plus, donc elle a un amant, etc. etc. » Donc, c'était la même chose. Et quand j'ai eu le prix, j'ai dit « Bah, voilà. Donc, ça y est, j'ai le Goncourt terminé. » Et j'ai eu ce moment de soulagement, mais à la seconde, c'est-à-dire à peine ai-je appris par la télévision, parce que c'est comme ça qu'on l'apprend, que j'avais le Goncourt. Mais la première réaction, c'est de dire merci à ma mère, à qui je dois énormément, et à mon éditeur, le merveilleux Jean Cayrol, à qui je dois énormément, et à Jean-Marc Roberts, à peine. Juste après le merci, c'est ouf, je suis libre. Et quand je vois des tas d'écrivains de qualité qui ont manqué 1 fois, 2 fois, 3 fois le Goncourt, bah, c'est pas bon pour leur bonheur. Donc, en général, ce n'est pas bon pour leur œuvre.
Donc, au fond, vous êtes un séducteur, ça, tout le monde le sait, mais vous n'êtes pas un courtisan.
Bah, j'ai été courtisan parce que quand vous êtes dans un palais et qu'il y a le roi, bah, vous aimez être aimé par le roi. Donc, j'aimerais pas refaire cette expérience-là. Mais séducteur, je suis un séducteur avec d'énormes détours. Vous savez, on dit, il y a une phrase, je ne sais pas de qui, en disant « quelqu'un qui est beau gagne du temps ». Et c'est vrai, moi, je ne suis pas du tout beau. Donc, je gagne du temps et donc, au bout d'un moment, j'arrive à mes fins. Donc, j'étais obligé, étant réaliste, je me regardais dans le miroir, je disais « putain, avec cette gueule, oh, voilà, j'ai dit des pas bons mots ». Enfin, c'est un mot de la langue française. Hein. Eh bien, je me dis que voilà, il faut prendre du temps. Donc,
Ça s'appelle le charme, ça, quoi.
Oui, enfin, l'obstination aussi. Hein. Ouais. L'obstination. Je suis d'une obstination. On peut penser que je suis comme ça, touche à tout, machin. D'abord, énorme travail. Ouais. Je travaille comme un fou, tout le temps, tous les jours, 7 jours sur 7. Et puis, j'aime le temps. Le temps est mon allié. S'il n'y avait pas le temps, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est une question qui me passionne aujourd'hui dans nos sociétés qui sont absolument avalées par le court terme. Et je pense qu'on ne donne pas du prix au temps. Et donc, on s'aperçoit avec les questions notamment climatiques ou environnementales qu'il faut écouter la voix de l'avenir.
Et vous avez même dit un jour que le principal obstacle à la démocratie, c'était le temps et
oui,
la mauvaise perception du temps.
Mais oui, parce que regardez ce qui se passe. Vous êtes élu. Eh bien, votre obligation, c'est d'être élu. Enfin, votre souci premier, c'est d'être élu. Donc, être élu, mais il faut prendre des mesures qui plaisent aux votants d'aujourd'hui. Et que je sache, les votants du futur, c'est-à-dire nos enfants, n'ont pas voix au chapitre. Et donc, vous privilégiez les votants d'aujourd'hui par rapport aux votants du futur.
Alors vous écoutant, là, vous qui êtes un homme de gauche très sérieux dans ses convictions, j'ai l'impression d'entendre Maurras défendre le principe monarchique, moi.
Bah, ce n'est pas le principe monarchique, mais ce n'est pas parce qu'il faut améliorer la démocratie. Le principe même de la démocratie, c'est qu'elle est fragile, il faut l'améliorer tout le temps. Je ne suis pas évident que si vous aviez le fils Mitterrand comme roi de France, ou le fils Sarkozy comme pas seulement patron de l'EHPAD, mais patron de la nation française, ça irait mieux. Non, je pense que. Oui, je pense comme Pierre Rosanvallon que la question du temps et d'autres, mais lui fait une réflexion très profonde, très aiguë et très nécessaire sur ce sujet. Vraiment, prêter de plus en plus d'attention au temps dans la démocratie, c'est nécessaire. Et que autrement, la puissance médiatique aidant, on est pris par la tyrannie du court terme. Et qu'est-ce que c'est que le court terme ? C'est l'émotion. Donc c'est la même chose. Le court terme et l'émotion, c'est la même chose. Le long terme et la raison, c'est la même chose. Donc il faut qu'il y ait plus de long terme dans notre démocratie et plus de raison et un peu moins d'émotion. Et là, si on ne travaille pas là-dessus, alors on va vers tous les populismes. Et c'est pour ça que Berlusconi peut avoir le pouvoir et d'autres peuvent avoir le pouvoir un peu partout. Et donc, non, la démocratie est un chantier à toujours, toujours, toujours remettre en cause et en œuvre.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur votre domaine d'activité aujourd'hui et surtout sur ce que vous faites actuellement ?
Deux choses qui, au fond, reviennent à la même chose. Je parle de la langue française et je parle de la connaissance. La langue est à la fois le premier des liens qui unissent les membres d'une communauté et un chef-d'œuvre collectif. On parle des cathédrales. Au fond, c'était un chef-d'œuvre collectif, mais qui rassemblait qu'une dizaine de milliers de personnes pendant un siècle ou deux. La langue française, français en tant que français, c'est 12 siècles. 12 siècles, donc, où des centaines de milliers, voire des millions de gens ont prêté la main. Un chef-d'œuvre auquel des millions de gens ont prêté la main. Parce que de la Brève de Comptoir jusqu'à des œuvres extrêmement ésotériques, du plus bas de l'échelle sociale jusqu'au président de la République ou au monarque, tout le monde prête la main à ce chef-d'œuvre qu'est la langue française. Et quelque chose me dit que, et ça me le dit avec une grande force, c'est que moins on prête d'attention à la langue commune, moins forts seront les liens qui unissent les individus. Et donc, quand vous avez 100 mots, que vous n'êtes capable de dire que 100 mots, et que vous ne savez même pas comment il faut relier ces 100 mots, eh bien, vous n'avez pas au sens plein de république, de choses communes, de res publica.
Donc, vous n'avez ni une maîtrise du réel.
Mais du maîtrise de rien du tout. Donc, évidemment, c'est la violence. Évidemment, c'est la violence. Je vais sans arrêt dans les classes, sans arrêt. Sans arrêt dans les classes, et je discute avec des élèves, et puis on fait des championnats. Alors, on fait des championnats de lettres de colère pour s'adresser au maire qui a refusé d'avoir une salle pour faire des répétitions de musique. Alors, on fait, et puis on regarde ce qu'on a écrit, eux et moi. Je gagne. Pourquoi je gagne ? Parce que j'ai plus de mots, j'ai plus d'argumentation, j'ai plus de ou dire, ah, monsieur le maire, t'es un nul, et encore, j'emploie des mots, ça, t'es nul, t'es un bouffon, t'es tout ça, etc. Ça veut rien dire, on veut rien dire. Et alors, elle est où l'argumentation ? Elle est où l'argumentation ? Moi, je suis plus méchant, je suis plus argumenté, donc il dit, ah oui, t'as raison, c'est toi qui as gagné. Et l'aide d'amour, pareil. L'aide d'amour, pareil. Donc, c'est à la fois dans le négatif, dans le positif, quand ils veulent faire des déclarations. Mais en même temps, on pourrait très bien utiliser des mots qui est utilisé dans la langue d'aujourd'hui, et là je suis sûr que mes confrères de l'Académie seraient très très furieux, mais par exemple le mot kiffer, et je voudrais vraiment qu'il rentre dans le dictionnaire parce que c'est merveilleux.
Oui, il a une belle atmosphère. Hein.
Et puis on dit vraiment je te kiffe.
C'est du Rabelais,
je te kiffe. Oui, je te kiffe, et puis c'est vrai que c'est violent, c'est pas je t'aime bien, ou j'ai envie de toi, je te kiffe, c'est bien. Ou alors j'ai la haine, je veux dire, je ressens de la haine pour, c'est nul, j'ai la haine pour. Donc, la construction avec le verbe avoir et la haine, bon, on pourrait avoir dire. Il y avait quelque chose que j'adorais qui était, à un moment donné, et puis ça a perdu, c'est dommage. Mais on parlait des cigarettes, on disait c'est une nuit grave. Pourquoi ? C'est une nuit gravement à la santé. Alors maintenant, on dit la mort, voilà, la cigarette tue. Mais c'était, voilà, donc il faut accueillir tout ça. Mais cette langue-là, qui est notre ambition commune, il faut la défendre. D'abord parce que c'est un trésor, ensuite parce que c'est gratuit. Et enfin, parce que c'est nécessaire.
Alors, si ça marche quand vous la défendez, c'est parce que vous êtes un chevalier positif. Vous n'êtes pas là toujours en train de nous dire « Oh là 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 là, c'est terrible ceci, c'est terrible cela ». Vous acceptez, par exemple, des techniques comme le courriel, tout ça, ça vous paraît...
Bien sûr, mais évidemment, de toute façon, on n'a pas le choix. Vous savez, moi, je suis assez lecteur d'Épictète et de Marc Aurèle. Hein, quand on n'a pas le choix, on le fait. Donc, c'est le réel, et j'aime bien le réel, au fond, parce que ça repose. C'est comme ça, donc on n'a pas à se dire. Mais les gens qui disent sans arrêt, il faut interdire, il faut lutter pour, c'est pas comme ça, etc. En oubliant tout ce qui s'était passé dans les périodes précédentes. Il y a toujours eu du jargon, il y a toujours eu de l'argot, il y a toujours eu du verlan. C'est vrai que moi, j'aime les SMS, par exemple. Le SMS, même avec des langues très diminuées, très, comment dire, très ramassées, même allusive et tout ça, je trouve ça bien.
Parce que ça demande une maîtrise, au fond.
Ben, ça demande une maîtrise. D'abord, c'est de l'écrit. On revient à l'écrit plutôt que le téléphone, on revient à l'écrit. Et puis à la fois dans la vie familiale de père de famille, c'est-à-dire on est sans arrêt en contact avec ses enfants. Moi, j'en vois à chacun, j'ai deux enfants, un minimum de 3 SMS à chacun par jour, premièrement.
Et en vous amusant.
Et bien sûr, en m'amusant.
Au fond, c'est drôle de vous entendre parler comme ça, parce que vous êtes quelques-uns à avoir rajeuni l'Académie française. Je pense là, sans être cuistre, hein, c'est, ce que vous dites au fond, c'est la lettre de Fénelon 1714 à l'Académie, en disant, grosso modo à l'époque, ras-le-bol, vous êtes en train de châtrer le langage français en interdisant l'utilisation des mots d'aujourd'hui.
Mais
1714,
Fénelon. Mais oui, on ne peut pas intervenir. Il y a un grand mot quand même de la langue. La langue française, c'est l'usage. Alors, on peut soit le bon usage, le mauvais usage, mais c'est d'abord l'usage. C'est quand même, moi, je vois dans tous ces outils un formidable appétit de la langue écrite. Mais en même temps, un rendez-vous terrible pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue. Parce que jusqu'à une date relativement récente, il y a 15 ans, quelqu'un qui ne maîtrisait pas la langue parlée, surtout écrite, pouvait encore trouver un emploi. C'est plus le cas. Tout est écrit, et tout passe par des écrans. Donc, le drame, c'est que d'un côté, vous avez de plus en plus de jeunes qui ne maîtrisent pas la langue. On dit 15-16% en sixième. En fait, c'est plus. Ça doit être 17-18%. Surtout, ça se dégrade d'année en année. C'est-à-dire, il y a des tas de gens qui sont privés de cette maîtrise de la langue. Donc, comme la langue est essentielle, puisque c'est écrit, que la plupart des indications, des obligations, même au moment de l'embauche, tout ça est écrit. Donc, celui qui ne maîtrise pas, il est exclu. Donc, imaginez qu'il y a presque un jeune sur 5 qui, à la fin du 6e, ne maîtrise pas la langue de sa communauté écrite. Ça veut dire que, selon toute probabilité, c'est-à-dire à plus de 90% de chance, ce jeune-là, il est exclu. Exclu de la langue, exclu de la société, exclu du travail. Donc évidemment, il aura toutes les autres formes, soit de désespoir, actif ou passif.
Mais quand vous donnez cette importance à la langue, je pense à la tribune du président de la République dans Le Monde, c'était le 9 décembre, donc la problématique, comme on dit aujourd'hui, l'identité nationale par rapport à la communauté musulmane, lorsqu'il demandait à la communauté musulmane non pas de faire sienne toutes les valeurs de la tradition française, mais 3 valeurs, l'égalité de l'homme et de la femme, la laïcité et la séparation du temporel et du spirituel. Mais il n'y avait pas la langue.
Non, mais la langue, ça c'est le choix français. C'est ces 3 valeurs, et là je suis absolument d'accord avec le président de la République, sauf que ce n'est pas seulement à la communauté musulmane qu'il faut le dire, c'est à toutes les communautés. Il y a des tas d'autres qui sont des excités et qui ne sont pas musulmans. Donc à tous il faut dire ça, à tous il faut dire qu'il faut respecter la femme, qu'il faut la laïcité, etc. À tous il faut le dire. Mais la langue c'est dans tous les pays, c'est l'évidence. Comment peut-on être dans une communauté si on ne parle pas la langue de cette communauté? Donc ça, c'est vraiment ce combat-là, évidemment contre l'illettrisme, mais contre ces formes rampantes, contre la mère de mes enfants. J'ai une vie personnelle un peu agitée, donc il y a la mère de mes enfants qui n'est pas ma femme actuelle.
Oui, pas un crime, troisième mariage, pas
non,
un crime.
Non, mais enfin...
C'est la poursuite éperdue du grand amour.
Je la salue avec affection et respect. Eh bien, elle est enseignante de droit à Sceaux. Eh bien, en droit, en 4e année de droit, le droit étant quand même une matière où normalement on connaît le français, ben, y a un étudiant sur 2 qui ne maîtrise pas la langue.
Alors, quatrième année.
Ce n'est pas possible. Donc là, moi je lance un premier cri d'alarme, c'est celui-là. Et le deuxième cri d'alarme, parce que il y a des questions importantes aujourd'hui, qui va en même temps, c'est une sorte d'obscurantisme. C'est-à-dire jusqu'à une date encore une fois assez récente, donc il y a une accélération là, une évolution qui me semble mauvaise. Celui qui savait était considéré avec un certain respect et avait une sorte de bénéfice de ce savoir. Il avait travaillé 20 ans de sa vie, il savait. Maintenant, quand on sait, on est considéré comme membre d'une sorte de grand complot et celui qui sait est plutôt en état d'infériorité par rapport à celui qui a une opinion. Et ça, c'est le net. C'est-à-dire, un savant dit « c'est comme ça », et l'autre dit « ben, c'est pas mon opinion ». On dit « il y a des avions qui ont fait exploser les 2 tours », Eh bien non, ça c'est votre opinion. Mon opinion, c'est que c'est un grand complot américain, judéo-américain. Donc ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que autant il y a des merveilles du net, et je suis un grand, grand utilisateur du net, de la toile, à la fois pour le courrier, mais pour aller surfer, pour tout ça, etc. Je passe mon temps dans le net, merci, merci la toile, merci, merci. Mais en même temps, la tyrannie de l'opinion est insupportable, parce que ça va avec l'obscurantisme.
Et avec l'émotion.
C'est pareil.
Et avec les dictatures.
C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, tout ça. Donc je suis pour la raison, j'aime le travail. Si on prend la question du travail, on ne peut pas imaginer une société qui n'aille pas vers le déclin si elle a abandonné la valeur du travail. Donc là, je suis comme notre président de la République en disant la valeur du travail par rapport à d'autres qui sont de ma famille politique, qui ont dit que le travail c'était bien, mais que l'important c'était le loisir. Et c'est ça le sens symbolique des 35 heures.
On ne va pas reparler, c'est ça.
Oui, mais c'est ça l'affaire.
Dire, là, on ne va pas reparler des 35 heures.
Mais oui, mais moi j'en parle parce que c'est la symbolique des 35 heures. La symbolique des 35 heures, ça veut dire qu'on fait son travail le plus vite possible et le reste du temps, c'est le loisir. Ben ça, ça veut dire une société qui va...
Mais il y avait aussi la théorie du gâteau.
Oui, mais ça, c'est des bêtises. Même temps, ce que je veux dire, c'est que si vous avez ça, la valeur du travail, on dit les jeunes ne veulent pas bosser, etc. Mais on leur donne des stages complètement nuls, sans les payer. Il y a les intérimaires qu'on méprise complètement. On méprise vraiment en contradiction avec toutes les lois possibles et imaginables. Et puis, vous voyez la critique du travail en disant « Moi, je bosse comme un fou et je vois des gens qui jouent au casino à l'intérieur des banques et qui gagnent 300 ou 500 000 ou 1 million d'euros. » Donc, elle est où la valeur du travail? Donc, la valeur du travail, elle est partout. Elle est parmi les jeunes qui, il faut leur botter les fesses pour ce qu'ils lèvent un peu plus tôt, qui passent un peu moins de temps devant les écrans et qui acceptent des boulots genre qui sont en cuisine ou qui sont dans le bâtiment, etc. C'est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est qu'au sommet de la hiérarchie économique et sociale, il y a des gens qui se sont blindés, et je vais être vulgaire parce que je le pense, se sont bourrés de fric et qui n'avaient apporté aucune utilité sociale à la société. Donc, et la valeur du travail, redonner la valeur du travail, c'est de ces deux côtés-là. Et ce n'est pas seulement un côté.
Donc, vous voulez dire que c'est la question clé dans toute la crise actuelle et qu'au fond, vous répondez un peu à c'est la quatrième question. Quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps? Est-ce que c'est celle-là de croire qu'on va sortir très vite de cette crise ou en fait, en cause, il y a d'abord et avant tout des valeurs?
Mais rien n'a changé, mais bien sûr que non. Moi, quand vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qui est important, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est la République, dont la langue, le savoir et non pas l'opinion, et puis essayer de donner un sens à sa vie, c'est-à-dire le travail.
Alors, un sens, je sais que vous avez une passion du football, donc je vais parler de quelque chose dont on parle rarement à l'Académie française, mais dans son dernier spectacle, Patrick Timsit s'appuyait sur le dernier match donc, de football France-Irlande et proposait de faire un test auprès de tous les gens qui étaient là, un test d'identité nationale à travers leur réaction par rapport au geste de Thierry Henry. Et la réponse étant, si t'as pas honte, c'est que t'es français. Alors, est-ce que... Est-ce que, d'une certaine façon, la quasi-totalité de la classe politique, la quasi-totalité des responsables sportifs ne lui ont pas donné raison?
C'est une honte de ne pas avoir honte. Et regardez ce qu'on demande à l'école. C'est de pallier toutes les insuffisances des tas d'autres structures, notamment familiales. Avec ce terme d'ailleurs d'une grandiloquence énorme et d'une sorte de fausse publicité énorme, on l'appelle l'éducation nationale. C'est évidemment pas l'éducation nationale. Au mieux, c'est l'instruction publique. Mais c'est évidemment pas le rôle du ministère de la rue de Grenelle d'éduquer nationalement. Évidemment non, elle n'en a pas les moyens. Donc regardez, on avance millimètre par millimètre en essayant de rappeler quelques fondamentaux sur les valeurs, et brutalement, on voit devant les écrans que celui qui triche, il a raison. Alors, on a avancé de 2 mm avec des millions de gens qui se sont battus pour ça, et brutalement, on recule de 20 mètres. Alors, quelle est la logique de ça? Quelle est la logique de ça? Que personne, à commencer par le président de la République, ait dit « on ne veut pas de cette qualification avec cette tricherie », c'est vrai que ça me révulse, d'autant plus que j'aime et le foot et Thierry Henry.
Mais personne ne l'a dit à gauche non plus. Hein.
Mais personne, mais attendez, mais la gauche c'est pareil. Hein. La gauche c'est pareil, ils étaient contents, tout ça, j'en sais rien, mais enfin c'est honteux, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Il faut qu'il y ait ce que je vous disais tout à l'heure sur le travail. Vous ne pouvez pas en même temps dire « Ah, les enfants, ils veulent rien foutre de mon temps, etc. » et en même temps saluer les gens qui se sont blindés à la bourse ou ailleurs dans des activités qui n'ont aucune sorte d'utilité sociale à part négative.
Donc nous avons répondu par anticipation à la troisième question. Qu'est-ce que vous avez à nous dire d'essentiel dans votre regard sur l'évolution de notre société ? Je crois qu'on y a répondu. On vient de répondre également à quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps, ou est-ce qu'on ajoute autre chose ?
Non, l'hypocrisie, c'est ça. On dit tout ce qu'on veut, mais au fond, il y a le règne de l'argent. Donc, c'est le règne de l'argent. Donc, moi, j'aime bien l'argent, c'est bien, ça permet la liberté, ça permet de faire des tas de trucs, j'aime bien
comme moyen.
Le bon vin, les bons hôtels, tout ça, etc. etc. Mais ça ne doit pas être la logique extrême de cette affaire-là. Et puis, comprenez, quand j'ai vu récemment un organisme de conseil comme ça qui disait que dans une société, il ne fallait pas que quand même l'écart de revenus entre le plus bas de la dite société et puis le plus haut dans une société, genre une société industrielle, soit plus de 275 fois. Mais on est où là ? Pourquoi 275 ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, Rosanvallon dit aussi des choses incroyables. Il dit cette tolérance à l'inégalité. On accepte qu'il y ait des relations comme ça incroyables entre. J'ai des fils d'amis qui sont traders, qui gagnent à 28 ans 300 ou 400 000 euros. Ma fille est en dernière année d'école d'infirmière. On sait qu'elle sera, je ne sais pas, 1800, 1900 euros après des années d'études, d'expérience, de garde, de choses comme ça, tout ça. Alors, quelque chose me dit, et j'ai envie de faire un texte pour essayer de raconter ça, donc en imitation à cet immense, immense Voltaire, c'est de dire au fond que une sorte de théorème, plus vous êtes inutile, plus vous gagnez du fric. Et quand vous vous dites ça, vous n'êtes pas loin de la vérité. Qui gagne le plus de fric ? Les gens pas forcément utiles. Et qui en gagne le moins ? En général, ils sont vachement utiles.
Cinquième question récurrente de notre série, l'essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
Écoutez, je dirais que c'est le passage du G7, G8 au G20. Même si on a vu les limites à Copenhague,
oui.
Mais ça c'était prévisible.
G2, c'était
oui, mais
G2.
C'était le G2 justement. Donc le G20, même s'il n'y a pas d'Afrique qui soit vraiment présente, on commence à aller vers le mieux. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'éléments sont, enfin, de questions sont des questions qui sont des questions planétaires et qu'il faut les régler planétairement et qu'il y a une communauté. Ça c'est la première chose. Cet événement m'a beaucoup frappé. Le deuxième événement qui m'a frappé, mais négativement, en partie, c'est la création de l'Union pour la Méditerranée. Il se trouve que chez Roland Dumas, j'ai eu le dossier pendant 3 ans, qui m'a absolument passionné, qui était le dossier d'une union restreinte pour la Méditerranée, qu'on appelait 5 plus 5, c'est-à-dire les 5 pays de l'Europe du Sud et les 5 pays de l'Union du Maghreb arabe. Et il y avait eu le choix entre faire une communauté sur l'ensemble de la Méditerranée, soit faire une tentative d'union sur la partie ouest de la Méditerranée. Et quand vous regardez la carte, il faut toujours regarder la carte, il ne faut jamais que l'histoire assassine la géographie, parce que c'est la géographie très souvent qui dicte l'histoire. Vous voyez qu'il y a au fond...
Bismarck dixit.
Ben oui, Bismarck et quelques autres, mais dont moi. Et donc, vous avez au fond aussi peu d'écart dans le détroit de Gibraltar qu'entre la Sicile et la Tunisie. Donc il y a un lac. Et ce lac dicte des intérêts communs. Des intérêts de pollution, des intérêts d'immigration, etc. Des intérêts militaires, tout ce qu'on peut imaginer. Donc nous avions fait cet exercice qui marchait très bien. Et donc moi j'avais plaidé pour qu'on s'en tienne à cet exercice, la plus modeste, d'union pour la Méditerranée occidentale et pas la Méditerranée globale. Pourquoi ? Évidemment à cause de la situation du Proche-Orient. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que cette idée formidable d'union pour la Méditerranée, qu'est-ce que ça veut dire Méditerranée ? C'est entre des terres, une mer entre des terres, Médie au milieu des terres. Donc, on a un destin commun, évidemment, on a un destin commun. Mais comme on a été un peu trop large, on est pris en otage par le conflit du Proche-Orient, dont on voit que même Obama n'a pas pu le faire avancer d'un millimètre. Au contraire, ça recule parce qu'il y a de plus en plus d'installations de ces scandaleuses colonies israéliennes dans des terres qui appartiennent aux Palestiniens. Donc, c'est bloqué. Et quand vous imaginez que, dans un domaine que je connais assez bien, la question de l'eau, une réunion des ministres de l'eau, Dieu sait si cette question est déjà cruciale et va l'être de plus en plus, est bloquée, la réunion des ministres de l'eau de ce domaine est bloquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un litige diplomatico-imbécile, c'est souvent la même chose, entre la Ligue arabe et Israël pour savoir qui va être vice-président de cette réunion.
Mais ce problème de la dilution, est-ce qu'on ne le retrouve pas à l'échelle de l'Union européenne de la même manière ?
Si, le drame de l'Union européenne, c'est que, alors je ne vais pas dire à ces populations qui évidemment ont eu la liberté un peu plus tôt, mais l'effondrement du mur de Berlin a eu lieu un peu trop tôt, c'est-à-dire avant que les institutions européennes soient un peu consolidées.
Et que François Mitterrand s'y prépare.
Donc, ici, c'était tout à fait préparé, mais personne ne savait. Mauvais procès, parce que personne ne savait que ça irait aussi vite.
Vous pensez que là-dessus, il n'a pas été en retard sur d'autres ?
Non.
Non ? C'est vraiment un faux procès,
C'est
ça.
C'est un faux procès. Non, il y a un procès.
C'est récurrent. Hein.
Oui, récurrent, mais vous savez, l'imbécilité aussi peut être récurrente. Et donc, je pense que ça, c'est un très, très mauvais procès. Non, on peut lui faire un autre procès qui est un procès assez grave, c'est le procès sur la Serbie. C'est-à-dire, il y a eu une sorte d'indulgence vis-à-vis de la Serbie à un moment donné où on aurait pu être un peu plus violent.
Quasi-culturel, d'ailleurs.
Comme ça, tout à fait, et puis de génération. Parce que la Serbie, c'était, on y revenait à 14. Hein. Et donc, c'était une question intéressante. Ce qui m'a montré, d'ailleurs, que à la fois dans les familles, dans les couples et en diplomatie, dès qu'il y a un conflit, il faut l'arrêter très vite. Parce que immédiatement, vous êtes entraîné. Imaginez que votre voisin donne une gifle à un de vos enfants. Comment c'est possible ? Et vous répétez. Et ça va très, très vite après. Si on touche un cheveu à un enfant, ça monte. Et puis ça monte entre les habitants du 3e et du 4e étage. Et puis brutalement, il a dit, vous avez vu celui-là, il est là, il est un breton, il a attaqué un type qui est bourguignon. Pof, 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 ça va très, très vite. Moi, je me sens plutôt doux comme garçon. Mais si on m'attaque, et si on m'attaque des proches, alors ça va très, très vite. Donc quand quelqu'un comme doux, a priori, sait qu'il peut monter en puissance, on a très, très peur. Et là, j'ai appris des tas de choses sur, par exemple, la Slovénie. Ce qui se passait, ça commençait à monter. Par exemple, sur un certain moment, et là, Roland Dumas et son copain Genscher, le ministre allemand, ont été absolument essentiels. Parce qu'à un certain moment, il y a quelques Allemands qui voulaient profiter du mur du Berlin pour remettre en cause la Lehre Oder-Neisse. Donc, ça rappelait des tas de moments de 39, 40 et tout ça. Donc, on arrête immédiatement. Non, arrêtez-vous immédiatement. Et on le voit bien. Quand ça monte, ça va très, très vite. Hein. L'être humain, le vernis de civilisation, il est très mince. Donc, il faut agir immédiatement.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Question très personnelle, hein. Vous pouvez utiliser le joker. Quel a été le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter ?
Plus grand échec, c'est parce que j'étais élevé là-dedans, dans cette idée, c'est que c'est de n'aimer qu'une femme. Alors il y en a eu beaucoup. Trop. Trop.
C'est un hommage à l'amour, d'une certaine façon.
Trop, mais je n'en regrette aucune. Donc alors est-ce que c'est trop ? J'en sais rien. M'entends, c'est vrai que normalement, on peut penser qu'un amour stabilise. Moi, ça a plutôt été des voyages.
C'est d'ailleurs très curieux que vous êtes un homme qui adore la vie et vous avez une bougeotte permanente. C'est un peu curieux, non, d'avoir ce besoin d'être toujours ailleurs. Quand on adore à ce point la vie, on pourrait se dire qu'à certains moments, quand vous étiez à Bréa, vous auriez aimé rester plus à Bréa, que vous êtes maintenant en face, vous aimeriez rester plus en face. Ou à Paris, que vous adorez, cette cour de la Fondation Mazarine, là, où, qui est le centre du monde, quelque part. Non, il faut toujours que vous partiez. Patagonie, machin, truc.
Parce que il y a...
Même si c'est pour le travail, il n'y a pas une quête, quelque part, de quelque chose
qui
met en cause l'idée du bonheur qu'on a chez vous. En fait.
Non, c'est que c'est bien aussi ailleurs. Mais vous savez, je reste, par exemple, tous les étés de moi en Bretagne. Je suis très, très souvent chez moi, dans le 13e. Je reste des tas de moments. Et puis il y a une sorte de maladie, mais je n'aimerais pas être guéri de cette maladie-là. C'est-à-dire, je ne sais pas répondre non à la question « pourquoi pas ?». Et donc, c'est le nom que Charcot avait donné à la plupart de ses bateaux, des bateaux d'exploration. Et d'ailleurs,
terminé, quand même.
Oui, mais toutes les vies se terminent mal. Autant que ça se termine au milieu de sa passion.
Vous parlez de la mort.
Oui, franchement, moi je préférais mourir en mer plutôt qu'avec des tuyaux partout, dans la chambre 7-11 de l'hôpital Pompidou.
Tiens, quel rapport entre votre passion des femmes et votre passion de la haute mer ?
C'est pareil, c'est la liberté, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin vers une femme, il n'y a pas de chemin avec une femme.
C'est l'infini.
Et puis, c'est à la fois l'obstination et puis l'humilité. C'est-à-dire l'obstination, c'est-à-dire si une femme me trouve nulle et que je l'aime, je mettrai 20 ans et de temps en temps, ça marche.
Toujours le temps.
Toujours le temps. C'est pareil, la mer, c'est du temps. La mer, c'est le temps liquide. Comme on dit, vous savez très bien, sur le vin, j'adore. J'ai eu un type en Australie qui m'a dit cette phrase, un vigneron qui m'a dit cette phrase formidable. Il m'a dit, le vin, c'est la géographie liquide. C'est exactement, c'est sublime et c'est exactement ça.
Revenons aux échecs. Question que je vous pose comme ça, vous cultivez l'humour, le recul, la dérision. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous en avez assez d'être l'incarnation d'une tradition, d'une certaine légèreté française ? Vous qui avez écrit quand même un livre aussi sérieux, aussi profond que l'exposition coloniale. Et je ne parle pas des essais que vous avez écrits par ailleurs, mais enfin...
Léger, je m'en fous, parce que les gens profonds, qu'est-ce qu'ils atteignent, au fond ? Vous savez, j'ai été éditeur pendant un moment donné, et alors il y avait des gens qui... c'était à la fin des années 70, donc le nouveau roman existait encore. Il y avait des gens qui voulaient l'imiter. Et alors, ils disaient, ah oui, mais... je ne veux pas rire, c'est pas possible, la vie est trop grave, etc. Très, très bien. Alors, je disais, qu'est-ce que vous aimez ? Eh bien, alors, j'aime Mouzil. Ah bon, Mouzil, c'est pas drôle ? Ben, relisez des trucs. J'aime Proust. Ah bon, Proust, c'est pas drôle ? Ben, relisez. Kafka, c'est pas drôle ? Ben, relisez ça, vous allez voir. Et Shakespeare, c'est pas drôle ? Ben, relisez ça. Et oui. Moi, je pense pas que...
Ça, c'est de la culture notoire.
Oui, mais les gens prennent que c'est le drame. Donc, quand on rit, on n'atteint pas le vrai.
Vous connaissez le mot de Pagnol, hein ? Méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux.
Oui, ben, c'est vraiment ça. D'abord, il y a ça. Et puis, bon, moi, je suis frappé du manque de curiosité des gens. Frappé. Ça ne les intéresse pas ce qui se passe ailleurs. Et puis, moi, je ne me considère pas comme créateur. Créateur, c'est quelqu'un qui crée un monde. Moi, je raconte le monde. Je suis un passeur, je suis un promeneur, maintenant professionnel. Et puis ça va
d'où
très bien.
D'où votre intérêt pour la science ?
D'où ma passion pour la science. Parce que qu'est-ce que la science ? C'est quand même... Quand on aime les histoires... Quand on pense que les histoires inventées ou vraies racontent le monde, qu'est-ce que la science ? C'est des histoires vraies, au moins à un moment donné. Et puis, regardez, quand il se trouve que j'ai fait beaucoup de bateaux depuis toujours, tout ça. Bon, je ne connaissais pas les mouvements des grands courants. Je connaissais les petits courants pour gagner les régates ou pas être trop mauvais, mais pas les grands courants. Je
me suis dit, j'ai fait un livre sur le globe quand même.
Bah oui, donc léger, bah, attends, que ceux qui accusent en disant qu'on est léger bossent un peu. Parce que c'est plus facile de pleurer que de rire.
Oui, mais vous associez toujours ce qui frappe les gens, et c'est que vous associez toujours le plaisir au travail. Pour vous, il n'y a pas de frontière.
Non, il n'y a pas de frontière. Comme il n'y a pas de frontière entre rire et pleurer. Vous faites l'effort, mais il faut faire l'effort, un minimum, d'apprendre. Et on peut apprendre la science. Et ben maintenant, quand je vois la tache bleue de l'Atlantique, je sais comment ça marche. C'est-à-dire que j'ai appris à lire hors les livres. J'ai appris à lire d'abord, un peu quand même. Et puis, je lis aussi hors les livres. Donc, quand je vois les forêts, je sais comment ça marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et là, je suis en train d'essayer d'apprendre un peu d'astronomie. Ben, c'est un bonheur, au lieu de rien voir avec des petites taches blanches ridicules au sommet du plafond. Ben non, je sais ce que marche et tout ça.
Et ça, ça va vous faire rencontrer Christophe Colomb ?
Bien sûr. Ben, Christophe Colomb, c'était ça. Hein. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire humaine ? 6 siècles avant Jésus-Christ, on sait que la Terre est ronde. 260 avant Jésus-Christ, un personnage immense qui dirigeait la bibliothèque d'Alexandrie, Ératosthène, par les voies de la trigonométrie, du calcul des ombres, mesure, à 5% près, mesure la circonférence de la Terre. Et après, chape de plomb, parce que ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que la Terre était ronde et que la Terre mesurait tant, pas loin de 40 000 km,
elle redevient plate.
Eh bien, elle redevient plate. Donc l'obscurantisme, chape de plomb, pendant 17 siècles. Et ce n'était pas trop gênant, parce qu'on naviguait soit sur la Terre, soit le long des côtes. Mais quand on veut traverser un océan dont on pense qu'il est très vaste, il faut passer par le ciel, donc par l'abstraction, donc par les mathématiques. Donc on est obligé de casser la chape de plomb. Et c'est ce que j'essaye de raconter dans le roman qui paraîtra au mois de mai prochain.
Alors, par rapport au personnage qu'on connaît de vous, il y a une affirmation qui m'a surpris. C'est lorsque vous dites que le personnage de roman que vous auriez aimé être, c'est Fabrice Del Longo, donc la châtreuse de Parme. Alors, vous n'avez pas quand même en commun avec lui les amours malheureux, non. Mourir à 30 ans de consomption amoureuse, non. Réac en diable sur le plan des idées à la fin de sa vie, Non. Moi, je n'ai trouvé qu'une seule chose commune, et j'ai fouillé, hein. C'est la description du regard que faisait Stendhal de Fabrice. Un regard chargé de douce volupté. Bon, oui, certes, mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous aviez de commun ou qu'est-ce que vous aspirez en lui ?
Au fond, c'est ce qu'on me reproche. C'est-à-dire, ce que j'aime chez lui, c'est la légèreté. C'est un homme léger. Lui, c'est un homme léger. C'est-à-dire, au fond, il ne réfléchit pas.
Il va le payer, hein ?
Oui. C'est un vrai imbécile.
Tandis que vous avez en commun, beaucoup de points communs avec Jean d'Ormesson d'ailleurs.
Ah bah j'aime, hein, Jean, l'exposition, j'aime Jean, bien sûr.
C'est vrai, l'exposition coloniale et la gloire de l'Empire, même moment, même chose. Votre rapport avec la séduction, c'est la même chose.
Ouais, il est plus fort que moi.
Bon, ici on cherchait à définir l'art de vivre à la Orsena. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait servir à d'autres, après tout ? Est-ce que ça vous réussit bien ?
Regarder quels sont ses regrets et les tuer les uns après les autres. Mmh. Ce qui est une morale plus contraignante qu'on dit.
Oui, c'est très stoïcien, ça.
Oui, bon, moi je suis totalement stoïcien. Franchement, totalement stoïcien. C'est-à-dire, encore une fois, le réel, on ne peut pas le changer, donc faisons avec le réel. Et puis ce qu'on peut changer, on peut le faire. C'est-à-dire, j'aime bien le possible. Je n'aime pas la pose, c'est-à-dire l'attitude, même si on sait que c'est impossible. C'est pour ça que je déteste les révolutionnaires, parce que c'est les plus conservateurs des conservateurs.
Alors moi, pour vous définir, ça va peut-être vous surprendre, mais j'utiliserai donc votre dernier livre, « Et si on dansait », dans lequel il y a une lettre étonnante du président Senghor à l'héroïne, donc Jeanne.
Que j'ai complètement réécrite, évidemment.
Dans une autre émission, on y fera allusion plus longtemps. Et vous citez le grammairien Jacques Drillon qui parle du point-virgule et qui dit « le point-virgule relie et ne sépare pas ». Au fond, est-ce que dans la vie, vous n'êtes pas, vous, fondamentalement une sorte de point-virgule ?
Mais le point-virgule est un passeur. Le point-virgule est dans la phrase. C'est vrai qu'il ne sépare pas. Ça continue, mais ça laisse l'intimité à chacun.
Donc c'est Eric Orsena, quoi.
Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas passeur. Moi, franchement, là, j'ai atteint étape par étape en mettant du temps, comme à chaque fois. Et donc, j'ai atteint ce que je souhaitais, c'est-à-dire passer dans tous les sens du terme. Pas rester, mais transmettre. Vraiment, j'ai deux passions. Absolu, c'est d'apprendre et transmettre. C'est-à-dire apprendre, mais ça me donne un bonheur. Étant à l'Académie française, je peux avoir des liens privilégiés, notamment avec l'Académie des sciences. Et quand vous avez l'avantage infini de pouvoir parler avec, avec Pierre Guénat, avec Quéré, avec des gens, des immenses savants.
Mais tout cela vous prennent au sérieux quand vous leur parlez de science ?
Écoutez, ils ne me prennent pas au sérieux d'abord.
Ils vous reçoivent comment, quoi ?
Au début, ils disent, tiens, qu'est-ce qu'il dit comme truc ? Puis ils voient que je bosse sur des petits cahiers Clairefontaine, comme ça. Et quand je pose la question à François Jacob, qu'est-ce que la vie ? Et au fond, quand je dis à des océanographes, alors le Gulf Stream, il s'arrête où ? Ils sont un peu gênés parce que, d'abord, évidemment, un cercle, mais ce n'est pas vraiment un cercle, comment ça s'arrête, etc. Ou qu'on pose des questions en astronomie ou à Pierre Léna, je dis, Pierre, l'eau arrive quand vraiment ? Alors, est-ce que c'était sur la Terre ? Est-ce que c'est des sortes de météorites pleins d'eau, de la glace qui tombe, etc. Il dit, il pose des questions. Non, parce que le romancier, quand il bosse et quand il est curieux, je pense qu'il a vraiment un rôle à jouer dans les questions qu'il pose, parce qu'il a, par rapport au savoir, pas seulement du respect.
Mmh. Une forme de créativité quand même nécessaire, quoi.
Absolument. D'invention et d'être... On peut être libre, quoi. On peut faire des trucs.
Alors, deux questions. Puisque vous parlez d'invention, ça me donne envie de vous poser deux questions. L'une, je n'y avais pas pensé avant, mais vous venez de me donner l'idée. La première, vous avez été reçu à l'Académie française, ça fait maintenant plus de 10 ans. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le regard que vous portez sur vous-même ? Est-ce que ça l'a rendu un peu plus, académique ?
Non, pas du tout. Zéro. Au contraire, à peine étais-je assis que je suis parti. C'est-à-dire, à peine étais-je assis que j'ai voyagé comme jamais. Mes enfants m'avaient interdit de me présenter en disant « Déjà, t'es chauve, les cheveux qui te restent sont blancs. »
Vous étiez quand même le plus jeune.
Oui, mais d'accord, mais c'est pas un critère, franchement. Et donc, voilà. Donc, j'ai bougé, je me suis agité beaucoup. Non. J'ai eu plus qu'avant, je l'avais, mais plus qu'avant, le sens du temps et le sens d'un peu de recul. C'est-à-dire que, vous savez, j'aimais beaucoup Maurice Druon. Et Maurice Druon disait que l'Académie française, c'était la première institution démocratique de l'Ancien Régime. est la dernière institution de l'Ancien Régime dans notre République. Et c'est vrai parce que c'est de l'élection. Et puis on a ce temps qui passe. Donc il y a des gens qui crient, qui se moquent, tout ça. Mais ils vont partir. Et puis nous, on demeurera.
Et puis les uns et les autres s'acceptent.
Et puis ils s'acceptent très, très bien. Et alors, alors le résumé, c'est trésor. Trésor de l'amitié à l'intérieur de l'Académie française. Quand vous imaginez, je ne sais pas, d'avoir des vraies relations d'amitié avec Jacqueline de Romilly, François Tcheng, des gens que vous ne connaissiez pas avant. Il y en a d'autres que vous connaissiez avant. C'est formidable quand vous voyez Marc Fumaroli parler, vous êtes comme ça, c'est formidable. Donc vraiment un bonheur, enfin un trésor. Et puis il y a les autres académies, j'aime beaucoup l'Institut. Moi, parce que les autres académies, imaginez que quel que soit le domaine du savoir, vous pouvez entrer en contact avec un des plus hauts représentants de ce savoir.
Mais l'Académie des sciences, pour être 250...
C'est magnifique, quel que soit le domaine. Donc l'Académie des sciences, les sciences morales, c'est plus proche de ma formation. Mais l'Académie des sciences, les beaux-arts, ça, c'est magnifique. Franchement, les inscriptions, imaginez. Non, c'est un trésor dont je sais qu'un regret que j'aurai quand l'infarctus me frappera ou que le radiologue me dira que j'ai une mauvaise image, je me dirai, je ne l'ai pas assez utilisé. Donc je me bouge les fesses pour l'utiliser plus.
Mais là, quand on vous écoute, on se dit, ce type-là, il a vraiment une chance extraordinaire, il est heureux dans la vie. Et tout
oui,
et tout.
Oui.
Ceci étant, quand on vous lit, et il y a quand même des livres, je pense à Longtemps, où on se dit que bon, vous n'êtes pas non plus passé à travers les gouttes. Quoi.
Bah, bien sûr, bah, écoutez, quand
la souffrance, tout ça, vous savez ce que c'est.
Bah, évidemment.
Alors, quelle est votre méthode pour que... Il y a ce rire qui soit là, presque quasi permanent et sans être artificiel. Que nous, on rame et qu'on a du mal à porter les valises. Quoi.
Quand on n'y peut rien, on n'y peut rien.
Encore les stoïciens, là.
Ben, oui, quand vous avez... Voilà, j'ai une compagne que j'aimais beaucoup qui est morte d'un cancer épouvantable et assez récemment. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, dans les moments pires, vous savez, des petites recettes imbéciles, mais les moments les pires, il y en a eu, bien sûr, au moins beaucoup. Et chaque jour, je me disais, tiens, est-ce qu'il y a eu une seconde où tu as été heureux? Oui. Et puis, on s'aperçoit que dans la pire des journées, il y a une seconde, deux secondes. Et puis une semaine après, il y a deux secondes. Et puis, deux mois après, il y a quasiment une heure. Et puis ça remonte, et puis ça revient. Vous savez, je travaille de plus en plus en botanique, et j'aime bien les leçons des plantes, parce que les plantes nous apprennent que l'animal dont nous sommes, le règne animal dont nous sommes, n'a pas le monopole du vivant. Eh bien, vous voyez comment les plantes créent leur humus, quand ils grignotent sur des années, ils dissolvent, ils attaquent, ils détruisent les rochers, et puis petit à petit, ça fait du sable, et puis ça fait de l'humus, etc. C'est pour ça que je suis passionné par les mousses et les lichens, parce qu'au fond, c'est des leçons comme ça. On retrouve un petit semblant de bonheur, et puis voilà, puis on sait que ça va s'effondrer de nouveau, puis on va partir à l'attaque. Et puis, je sais que c'est pas très bien vu ici, dans ces maisons, mais pour l'instant, a priori, je suis pas complètement menacé, donc ce que je veux dire n'a aucun sens vraiment, mais j'ai pas très envie d'être très vieux. Non. Ma vie, si elle s'arrête, elle est là bien. Elle est tellement au-delà de ce que j'avais rêvé, donc elle est là bien. Donc si elle continue, tant mieux, si elle continue pas, tant pis.
Alors ça m'amène à la dernière question que je voulais vous poser. Ça va, on se connaît depuis quand même plusieurs
longtemps,
dizaines,
oui. longtemps.
Plusieurs dizaines d'années. La seule chose que je n'ai pas comprise dans toutes les déclarations que vous avez pu faire, c'est lorsqu'un jour, parlant de Dieu, vous avez dit « je n'en ai pas besoin ».
Ben non.
D'une façon aussi lapidaire, Éric Orsenna répondant comme ça, de façon aussi lapidaire, sur un sujet pareil, « ah non, Dieu, je n'en ai pas besoin ».
Et franchement...
Vous arrivez à être aussi serein que ça dans votre athéisme ?
Franchement, oui. D'abord, je suis encore plus agnostique qu'athéisme.
Autre chose, ça.
Non, oui, mais attendez. Ce qui me sidère, c'est que des gens...
Laisse la place à Dieu.
Oui, mais que des gens puissent avoir le culot de parler à Dieu, peut-être, mais de Dieu, je trouve ça hallucinant. Comment peuvent-ils avoir cette outrecuidance de penser qu'ils puissent parler de Dieu, premièrement? Et encore plus, alors, de dire « ma religion est meilleure que la l'autre », etc. Et ça. Alors là, je suis écroulé de rire. Franchement, quand je les vois se battre sur des trucs, la théologie, mais je ne comprends rien de ce qu'ils racontent. C'est un truc complètement abstrait, donc un jeu comme un autre, c'est comme les échecs. Mais c'est pour ça, au fond, pour ça que je n'aime pas les échecs, c'est pour ça que je n'aime pas la théologie. C'est-à-dire, quand il n'y a pas un substrat un peu réel, ça ne m'intéresse pas. pour ça que je préfère les romans à la science-fiction.
On va tous les deux relire Marc Aurèle.
Oui,
et
mais
on mourra heureux.
Mais attends, on mourra comme on mourra, heureux ou pas heureux, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, la vie qui nous a été donnée, je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, j'en sais rien.
On a eu de la chance.
Mais une chance immense. Mais cette vie-là, jusqu'au bout, on l'aura vécue. Si je meurs là devant vous immédiatement, mais qu'est-ce que je pouvais en tirer de plus de la vie ? Rien, rien, rien.
Prenez quand même quelques temps.
Mais je vais tout faire pour. Et puis surtout, alors surtout, ça c'est la règle absolue. La règle absolue, c'est vraiment, c'est de dire qu'on les aime aux gens qu'on aime. Ça c'est la règle de base. Ne pas oublier. Le plus grand des regrets serait, me sentant mourir, de me dire, j'ai pas dit que je l'aimais à quelqu'un ou quelqu'une que j'avais aimé.
On terminera là-dessus, on ne peut pas terminer mieux. Éric Orsenna, merci. Je rappelle donc qu'après La grammaire est une chanson douce, Les chevaliers du subjonctif, La révolte des accents, vous avez publié chez Stock en 2009 le quatrième volume de votre série sur la langue française, donc le quatrième volume intitulé « Et si on dansait ?». Merci à tous et à toutes d'être avec nous.